18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre grand journal du soir sur Europe 1, à la une de l'actualité. Ce soir, c'était une journée test du déconfinement. À peu près 1 million d'élèves de retour à l'école, une grande majorité en primaire, direction Bordeaux. Dans un instant, c'est dans votre journal que ça se passe. Sébastien Krebs, bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, des nouveaux cas du coronavirus à Wuhan, berceau du virus en Chine. Les mots qui reviennent même après avoir été malade. Que sait-on finalement de ce virus que l'on semble découvrir un peu plus chaque jour? Je reçois la professeure Dominique Salmon, elle est infectiologue à l'hôpital Dieu, à l'hôtel Dieu précisément à Paris. Et puis bien sûr pour décrypter l'actualité du jour, votre rendez-vous avec les grandes voix, ce sera dès 18h30, on sera aussi à Marseille. C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changé jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La cour est coupée en quatre, c'est-à-dire qu'il y a les bleus et les rouges, une couleur à une partie de la cour. On peut amener des affaires personnelles, mais tu peux y jouer que tout seul.
Les bleus, les rouges, des tables très espacées et surtout des mains bien propres. Les premiers élèves de maternelle et de primaire ont donc repris le chemin de la classe ce matin.
Alors, premier retour d'expérience, nous sommes à Bordeaux dans quelques secondes.
Cette fois, ça y est, l'état d'urgence est en vigueur et avec lui, la nouvelle attestation pour faire plus de 100 km. On vous dira quels sont les motifs autorisés.
Les Parisiens ont besoin d'air. Anne Hidalgo demande la réouverture des parcs. Le gouvernement dit non.
Pour avoir vu les images sur les quais de Seine, non, nous n'ouvrirons pas les parcs et jardins à Paris, en Ile-de-France, ainsi que dans les autres régions qui sont classées rouges.
Le ministre Olivier Véran, est-ce si dangereux d'ouvrir ces parcs? On verra ce qu'en pense le docteur Jimmy Mohamed.
Dans ce journal aussi, les conseils municipaux élus en mars vont pouvoir siéger d'ici au 28 mai.
Le retour du virus à Wuhan, les 11 millions d'habitants vont se faire dépister.
Et puis la ville d'Amiens qui se mobilise pour sauver son club de foot de la relégation en Ligue 2.
Nous sommes dans une situation qui est totalement inédite et on se réfère également à l'équité. Ici, la décision qui a été prise, justement, n'est absolument pas conforme à l'équité.
La maire de la ville derrière son club et on passe ce soir le coup de fil du 18h au président du Amiens SC. La Bourse de Paris en léger repli ce soir, moins 0,39% à 4472 points.
Bonsoir Anissa, bienvenue, le temps avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, nous avons toujours un département placé en vigilance orange dans le sud-ouest. Il s'agit des Landes pour la propagation des crues de la Midouze et de l'Adour. Restez vigilants, évidemment. Demain, encore beaucoup, beaucoup de pluie sur une grande partie du pays. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Les petites voix sont donc de retour en classe et les cris d'enfants dans les cours de récré. Ils n'étaient pas très nombreux aujourd'hui, mais les premiers à entamer cette reprise avec distanciation. Dans les jours qui viennent, 1,5 million d'élèves de maternelle et de primaire sont attendus. Journée test, donc, à Bordeaux, par exemple, où nous rejoignons Stéphane Place. Stéphane, que dit-on ce soir à la sortie de l'école ?
Gros cartable sur le dos, grand sourire aux lèvres, des enfants tout contents d'avoir repris le chemin de l'école. Fin d'une première journée marquée bien sûr par des changements d'organisation pour ces élèves de CP et de CM2 comme Gabrielle et Anna.
La cour est coupée en quatre, c'est-à-dire qu'il y a les bleus et les rouges, une couleur à une partie de la cour. On peut amener des affaires personnelles mais tu peux y jouer que tout seul. On peut pas courir parce que sinon après c'est plus 1 mètre mais 10 mètres. Il y a deux tables, il y a une personne dessus, après sur la rangée d'après il y a personne et après il y a une personne.
C'est un peu compliqué les distances, puis c'est pas pareil, il y a pas moins de personnes, donc ça fait un peu bizarre.
Devant l'école, des pétales de fleurs peints sur le trottoir pour marquer les distances à respecter et des parents rassurés par les mesures de précaution sanitaire prises au sein de l'établissement.
Ça a été une longue tergiversation. On avait effectivement, en termes d'organisation, besoin que les enfants reprennent les cours, mais en même temps, la peur du virus est quand même présente. Bon, ceci étant, l'école a été très rassurante sur les mesures mises en place.
Elle est très contente de retrouver sa maîtresse et certaines de ses copines. En demi-classe. On a eu une bonne communication de la directrice de l'école. Elle a adressé un courrier très simple et très sympa pour les enfants. Voilà, dans les choses se font simplement.
Dans cette école du cours de la Somme, ici à Bordeaux, on accueille en temps normal 360 élèves. Aujourd'hui, ils étaient une cinquantaine dans les classes.
Un reportage de Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1.
Des élèves qui n'étaient pas encore en classe partout. Certaines villes comme Paris typiquement se laissent quelques jours de plus pour préparer. On va y revenir avec les grandes voix à 18h30. On verra comment cela se passe à Marseille également avec Nathalie Chevant sur place.
Et dans la Vienne, à Chauvigny, après le foyer détecté la semaine dernière au sein de la direction du collège, cette fois c'est une enseignante intervenant dans une école qui a été testée positive. Du coup là-bas la rentrée est repoussée jusqu'à nouvel ordre dans tous les établissements de la ville. Tous les personnels scolaires sont en train d'être dépistés.
24 heures de retard, mais ça y est, les règles du déconfinement s'appliquent depuis ce matin avec la promulgation, hein, Sébastien, de l'état d'urgence sanitaire.
En particulier, l'interdiction de parcourir plus de 100 km, sauf motif impérieux. Alors, qu'est-ce qui est permis précisément ? Guillaume Bié, le ministère de l'Intérieur, a publié une nouvelle attestation à remplir.
Oui, c'est la troisième version depuis le début de la crise sanitaire. Cette fois, elle ne s'appelle plus attestation, mais déclaration de déplacement. Elle est toujours sur le site internet du ministère de l'Intérieur, à imprimer ou à compléter en ligne. Et par rapport aux précédentes, il y a pas mal de changements. En résumé, vous devez la remplir uniquement si vous sortez de votre département et que vous effectuez un trajet de plus de 100 km. Nouveauté aussi, cette distance de 100 km se calcule à vol d'oiseau depuis votre domicile principal ou désormais depuis votre résidence secondaire ou votre lieu de célibat géographique, précise le document. En fait, la règle, c'est d'avoir avec soi un justificatif de domicile de moins d'un an, une facture, un avis d'impôt ou simplement la carte grise de votre véhicule. Bref, un document à votre nom et adresse qui permet d'établir le point de départ de votre trajet. Et puis, il faut aussi un justificatif expliquant pourquoi vous faites ce déplacement, que ce soit en voiture, en train ou en avion, une convocation pour un examen, par exemple, ou pour un entretien d'embauche. Et pour ceux qui font de nombreux déplacements professionnels au quotidien, pas la peine de remplir cette déclaration tous les jours, mais il est conseillé d'avoir une attestation d'employeur pour éviter l'amende de 135 euros.
Voilà pour le mode d'emploi signé Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1.
Bienvenue, hein, ce mode d'emploi. Alors, on imagine qu'avec le retour du beau temps, ceux qui ont la mer dans leur rayon de 100 km vont s'y précipiter, d'autant que les plages pourraient rouvrir dans les prochains jours. Hein.
Possiblement, hein, d'ici à ce week-end, les préfets doivent trancher au cas par cas et de nombreux maires ont déjà déposé leur dossier, que ce soit dans l'Ouest ou sur la Côte d'Azur. Il s'agirait d'autoriser la promenade, les activités sportives, mais attention, pas de bronzage sur sa serviette ni de pique-nique à ce stade.
Et loin de la mer à Paris, en zone rouge, la bataille est engagée sur la question de l'ouverture des parcs et jardins. La maire de Paris, Anne Hidalgo, le réclame, mais pour le gouvernement, eh bien c'est non.
Ouais, les Parisiens veulent de l'air, mais il y avait beaucoup trop de monde agglutiné hier soir sur les quais du canal Saint-Martin. Du coup, le ministre de la Santé, Olivier Véran, rejette toute idée de dérogation.
Pour avoir vu les images auxquelles vous faisiez allusion hier sur les quais de Seine, de la volonté, encore une fois, on peut comprendre le réflexe. Mais attention, ça peut être dangereux. Non, nous n'ouvrirons pas les parcs et jardins à Paris, en Ile-de-France, ainsi que dans les autres régions qui sont classées rouges, parce que, non pas qu'on n'a pas envie que les gens puissent sortir ou prendre l'air, mais que ça peut être extrêmement tentant, par le soleil que nous avons aujourd'hui, que les gens se regroupent trop, s'amassent trop, qu'ils ne respectent pas les groupes de 10 et qu'ils ne puissent pas respecter les conditions des gestes barrières.
Olivier Véran avec Claudia Bertram. Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes avec nous comme chaque soir, alors évidemment extrêmement tentant, hein, dit le ministre. Quand on voit les images d'hier, est-ce qu'il a raison ? D'un point de vue médical, ce serait ingérable de rouvrir ces parcs ?
Alors c'est vrai que je suis un petit peu perplexe et on est partagé entre le fait qu'il peut y avoir des gros regroupements, comme on a pu l'observer le long du canal Saint-Martin, et le fait que la propagation du virus et la transmission dans l'air est absolument faible, voire nulle, ce qui veut donc dire que ouvrir des parcs serait peut-être beaucoup moins à risque que d'être agglutiné dans les transports ou dans certains supermarchés. Donc pour l'instant, rien ne prouve qu'il y ait une transmission aérienne. En revanche, effectivement, si tout le monde, lors de l'ouverture des parcs, se met à 5, 10, 15 ou 20, à moins d'un mètre, en partageant des verres, et bien là on peut effectivement suspecter une transmission du virus. Mais si on appelle à la raison à chacun et que des parents décident d'amener leurs enfants faire un peu de toboggan, on pense que le risque est plutôt faible, d'autant plus que ces mêmes personnes vont peut-être se regrouper ailleurs. Donc il va falloir peut-être patienter. Le ministre ne semble pas vouloir changer d'avis et peut-être qu'il a raison, seul le temps pourra nous le dire.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. Le problème c'est que ça fait du monde sur les trottoirs, surtout les trottoirs parisiens. Alors à demain dans ce journal de 18h et dès 15h dans l'émission Santé d'Europe 1. Ça s'appelle Sans Rendez-vous, c'est aux côtés de Mélanie Gomez. Et juste après ce journal, on y revient avec la professeure Dominique Salmon. Elle est infectiologue à l'hôpital L'Hôtel Dieu à Paris.
Et au fait, tiens, une petite question. Est-ce que vous savez si l'on doit dire le Covid ou la Covid ? Bien, l'Académie française a tranché. Figurez-vous que c'est féminin parce que c'est un acronyme. Covid, ça veut dire coronavirus disease en anglais. Ça veut dire la maladie du coronavirus. Donc, c'est féminin. Et il reste encore un point à éclaircir. Le déconfinement, il n'existe dans aucun dictionnaire. Il va falloir qu'il y fasse son entrée.
Absolument. La suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Nous vous l'annoncions ici même, hein, dès hier soir. Édouard Philippe l'a confirmé aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Les conseils municipaux élus dès le premier tour au municipal du 15 mars dernier vont pouvoir siéger. Hein.
Oui, on l'avait presque oublié. 30 000 communes de France sur 35 000 ont élu un maire. le 15 mars, sauf qu'il n'est jamais entré en fonction. Ce sera chose faite dans les semaines qui viennent. D'ici au 28 mai, le feu vert a été donné après avis du Conseil scientifique, Jean-Gabriel Bourgeois, et il faudra organiser ces réunions dans des conditions bien précises.
Oui, c'est la fin d'une longue attente de 2 mois dans plus de 80% des communes françaises. Avec la mise en place du confinement, les mandats des maires en place avaient été prolongés. Ils prendront fin lundi prochain, le 18 mai. C'est là qu'entreront en fonction les nouveaux élus. Charge à eux ensuite de se réunir entre le 23 et le 28 mai, dernier délai pour désigner le maire. Ces conseils municipaux d'installation seront très encadrés. Port du masque, une seule personne chargée du dépouillement et surtout 4 mètres carrés par personne. Hugo Bio 18 ans, maire de Vinzieux, 500 habitants en Ardèche, est ravi de pouvoir enfin récupérer les clés de la ville, mais ne sait pas si sa mairie sera assez grande pour accueillir le premier conseil.
Ça permet de mettre fin à toute l'incertitude et que rapidement on puisse se mettre enfin au travail et prendre les responsabilités pour lesquelles on a été élu. Comme on est une petite commune, on sera 11 conseillers municipaux. Je ne sais pas encore si c'est possible techniquement de le faire dans la mairie. Il faut qu'on regarde la superficie de la salle exactement et en fonction, on avisera si on le fait plutôt dans la salle de la mairie ou dans la salle communale.
Il reste maintenant à déterminer si le second tour pourra se tenir dans les 5000 communes restantes. Ce sera tranché après un avis du Conseil scientifique d'ici le 23 mai.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Sur le plan économique, à présent, la Banque de France estime que ces 2 mois de confinement ont coûté 6 points de croissance. Au mois d'avril, l'activité a diminué de 27%. Aujourd'hui, le ministre du Logement a appelé le secteur du bâtiment à faire redémarrer la totalité des chantiers d'ici à la fin du mois.
Et s'agissant du tourisme, le gouvernement prépare le grand soir, un plan Marshall en fait de plus d'1 milliard d'euros. On y reviendra à 19h et puis dans les grandes voies, un conseil interministériel est prévu jeudi.
Le tourisme qui va avec la question en suspens des frontières européennes. Comment les rouvrir ? L'Espagne a annoncé aujourd'hui que toute personne arrivant de l'étranger sera placée en quatorzaine, mesure qui s'appliquera au moins jusqu'au 24 mai. La prudence donc, de mise par peur de relancer l'épidémie. Et un exemple qui peut nous faire réfléchir. Le virus est de retour à Wuhan, le berceau en Chine. De nouveaux foyers sont apparus et notamment chez un homme qui se pensait guéri.
Et du coup, un dépistage massif des 11 millions d'habitants qui est aussitôt lancé. Sébastien Le Belzic est à Pékin pour Europe 1.
Plus d'un mois après son déconfinement, la ville de Wuhan voit planer le spectre d'une deuxième vague. Hier, un quartier entier a été à nouveau placé en quarantaine, plus de 5000 personnes en isolement total. Après la découverte de 5 nouvelles contaminations, c'est un octogénaire contaminé au mois de mars et qui pensait être guéri qui a rechuté et contaminé ensuite sa femme et 3 autres personnes. Des contaminations en cascade, c'est ce qui inquiète les autorités chinoises qui lèvent très progressivement les mesures de confinement. À Wuhan, une grande campagne de dépistage systématique va être lancée. Dans cette ville épicentre de l'épidémie, la majorité de la population va être testée. Ça représente plusieurs millions de personnes et 13 districts de cette ville. La campagne de dépistage va durer 10 jours. Ailleurs en Chine, comme à Pékin, plusieurs points de dépistage sont également installés, notamment à la demande des grandes entreprises qui veulent tester leurs employés. Et puis à Shanghai, c'est le parc Disneyland qui a pu enfin rouvrir hier. Mais le nombre de billets en vente est très limité et il est interdit de faire des selfies avec Mickey. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
Et puis en Algérie, le confinement est prolongé. Là-bas, les commerces restent fermés. 15 jours supplémentaires jusqu'au 29 mai. Les Algériens devront donc fêter la fin du Ramadan confinés chez eux.
Retour en France maintenant avec la fin de saison de la Ligue 1 de football qui va se jouer devant les tribunaux en fait. C'est notre coup de fil du 18h. Bonsoir Bernard Joannin.
Bonsoir.
Vous êtes le président du club d'Amiens hein, qui à ce stade est relégué en Ligue 2 puisque le classement a été ni plus ni moins que figé et vous avez réagi, vous avez déposé un recours devant le tribunal administratif.
Oui, nous trouvons que cette décision du conseil d'administration de la Ligue est injuste, incohérente et infondée. Le championnat a été arrêté à la 28e journée. En réalité, le championnat doit comporter 38 journées, 19 allées, 19 retours. Il restait donc un quart du championnat à effectuer.
Il restait 10 matchs.
26% ouais. des matchs. Et nous devions rencontrer nos 3 concurrents directs qui étaient placés juste devant nous pendant ces 10 matchs. Donc voilà.
Mais à la fois, il fallait
bien
prendre...
C'est une question d'argent ?
Ouais. Non, pas du tout. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de ce club... En 2009, c'était vraiment, et je l'ai dit à la conférence de presse aujourd'hui, c'était vraiment avec des entrepreneurs locaux. Nous sommes d'Amiens, on a voulu rendre à la ville ce qu'elle nous a donné. Et c'était vraiment un geste citoyen de reprendre ce club. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sport. On ne cherche pas de dommages et intérêts. L'argent ne nous intéresse pas. On souhaite la justice. Et je pense que dans ces moments très difficiles pour la France et du reste pour l'Europe et tout le monde par rapport à cette pandémie, je pense que le conseil d'administration de la Ligue aurait dû faire preuve d'humanité. Une humanité qui est souvent inhérente au monde du sport. Allô ? Allô ?
Merci. Merci Bernard Joannin, président de l'Amiens SC.
Merci à vous, petite interruption, excusez-nous. Sébastien Krebs, merci à vous. On va vous retrouver. On parle d'un mot peut-être de Toulouse quand même. Sébastien, on n'arrive pas à vous rejoindre. Merci, merci à tous. Sébastien Krebs, on va se retrouver tout à l'heure, du coup à 18h30. Avec Anissa, on regarde le ciel. Et encore un département, Anissa, en vigilance orange.
Oui, il s'agit des Landes, Nathalie. Toujours ce département placé en vigilance orange inondation pour la propagation des crues de la Midouze et de l'Adour. Donc prudence dans ce département. Alors demain, la journée sera encore placée sous le signe de la pluie sur presque tout le pays. Seule la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, le Nord et la Corse restent au sec. Demain, pour toutes les autres régions situées au sud de la Seine, eh bien demain, la journée sera très humide avec de la pluie, des pluies qui perdurent et qui prendront même un caractère orageux l'après-midi sur les Alpes, la vallée du Rhône et le sud du massif central. Sur la Corse et le bassin méditerranéen, c'est le vent qui se renforce déjà cette nuit et puis demain dans l'après-midi avec des rafales jusqu'à 90 km/h. Sur les côtes de la mer du Nord, sur la Manche, sur la pointe bretonne et le centre, là c'est le vent du Nord qui va venir rafraîchir l'atmosphère. Et justement, en parlant d'atmosphère, les températures, elles sont bien fraîches demain matin pour la saison. Nous aurons seulement 1 degré à Charleville-Mézières, 3 à Caen et Nancy, 6 à Strasbourg et Dijon, 7 à Paris, 14 à Nice. Et puis, au meilleur de la journée, ça ne grimpe pas côté thermomètre, avec 11 à Poitiers, 14 à Lille, 15 à Bordeaux et Clermont-Ferrand. On avait plus de 10 degrés de plus la semaine dernière. 17 à Paris, 18 à Lyon et 25 degrés pour Ajaccio.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, c'est dans un instant sur Europe 1 avec votre invitée Nathalie Lévy.
Oui, beaucoup de questions sur ce Covid-19. Des nouveaux cas qui apparaissent à Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie. Des mots qui réapparaissent même plusieurs semaines après avoir été malade pour un homme, un octogénaire. On en parle avec Dominique Salmon. Elle est mon invitée, infectiologue à l'hôpital L'Hôtel Dieu à Paris. À tout de suite sur Europe.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy avec votre invitée. Vous recevez ce soir la professeure Dominique Salmon. Elle est infectiologue à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris.
Bonsoir professeur, merci d'être à mon micro sur Europe 1, bienvenue.
Bonsoir, merci.
Merci. Alors, de nouveaux cas qui posent question au sud de Wuhan, en Chine, berceau de l'épidémie. Un homme octogénaire malade en mars, resté chez lui, croit être guéri et rechute samedi. Il est testé au Covid-19, il est positif, il contamine sa femme et 3 ou 4 autres personnes dans la foulée. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce qu'on apprend avec ça du virus aujourd'hui?
Alors, c'est une nouvelle question. C'est vrai qu'on est affaire à un virus qui est assez déconcertant. On a compris certaines choses, mais encore vraisemblablement pas tout du tout. Et on est un petit peu en retard par rapport à l'épidémie chinoise. Donc, cette observation, on commence à avoir à nouveau la même chose en France. On observe à nouveau tout récemment d'ailleurs, des patients qui recommencent à avoir quelques symptômes après une infection alors qu'on les croyait guéris.
Ça veut dire quoi? Ce sont des résurgences? C'est comme ça qu'on peut nommer ça pour l'instant, pour essayer de comprendre? Des
oui,
pics de nouveau, de fièvre
ça, nous,
de...
Oui, on a beaucoup cherché le bon terme. On ne peut pas dire rechute, on ne peut pas dire réinfection. Il n'y a pas d'argument pour la réinfection. Donc nous, on appelle ça des réaggravations. Vous voyez?
Donc qui peuvent aller de choses très simples, c'est-à-dire un petit point de température à des maux beaucoup plus importants?
Alors, on a tout d'abord observé ça chez des patients assez sévères qui avaient été hospitalisés, voire même intubés, et qui avaient fait une pneumonie, qui sortent, on croit qu'ils sont guéris, et refont à nouveau des signes pulmonaires ou une pneumonie. Et puis plus récemment, par exemple, à l'Hôtel Dieu, où on voit des patients moins graves, plutôt ambulatoires, On observe aussi les gens qui ont fait des formes mineures, par exemple des troubles du goût et de l'odorat qui sont très fréquents, qui disparaissent et qui reviennent au bout d'un mois. Donc on appelle ça plutôt des réaggravations, vous voyez, parce qu'on n'a pas du tout d'argument pour dire que les gens se sont réinfectés. On pense que c'est plutôt des gens qui ont gardé un petit peu de virus caché.
Virus.
Vous voyez, qui
n'ont
peut-être pas développé une réponse immunitaire suffisante pour éradiquer leur virus.
D'accord. Alors professeur, si on regarde ça, on a aussi des cas, nous à Europe 1 précisément, c'est arrivé à des collègues, ça fait pourtant deux mois qu'ils ont été Covid-19 plus, enfin qu'ils ont été positifs, ça dure encore aujourd'hui, ça peut durer comme ça en mois, en année?
Alors ça touche déjà que, disons, je dirais moins de 10% des gens, hein. La plupart des personnes, une fois qu'elles ont eu leur maladie Covid, elles guérissent et tout va bien. Mais chez ce petit pourcentage de personnes, il faut vraiment une exploration particulière pour voir si on garde le virus. Moi, j'encourage les personnes qui ont des rechutes comme ça à recontacter leur médecin ou à nous contacter pour qu'on puisse les tester. Vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir si au moment de cette réaggravation, on garde du virus. Est-ce qu'il y en a autant qu'avant ou moins? Pour moi, c'est des rechutes à minima. Il y a quelques cas publiés qui montrent que les rechutes, les réaggravations sont toujours moindres, vous voyez ?
D'accord, toujours moindres, mais on ne sait pas aujourd'hui, à ce jour, impossible de dire si ça peut durer des mois, voire des années. Impossible à établir pour l'instant.
Des mois et des années, on n'a pas le recul. Hein.
Oui, bien sûr.
On n'a pas le recul.
Donc, professeur...
Il y a quelques cas publiés, ce que je peux vous dire, il y a très peu de cas publiés. Hein. En réalité, il n'y a que 5 cas qui ont été publiés pour l'instant par une équipe chinoise.
Ouais. Et comment les traiter ces cas-là, alors, professeur? Comment on les traite? Est-ce qu'il faut passer aux antibiotiques dans ces cas-là, ce qui n'est pas normalement le protocole, hein?
Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est de vérifier qu'il n'y a pas autre chose que le Covid, hein, parce que ça peut être une surinfection pulmonaire, une infection urinaire. On a vu des gens comme ça qui pensaient avoir une rechute, c'était rien à voir. Hein. Donc, il faut consulter son médecin et voir si ça ne nécessite pas des antibiotiques pour autre chose. Mais c'est une petite réaggravation du Covid, il n'y a rien à faire. Hein.
Il n'y a rien à faire,
surtout
d'accord.
Pas pour l'instant. On ne donne pas de corticoïdes, on ne donne pas de traitement spécifique.
Et professeur, donc si on est dans cette rechute, dans cette résurgence, est-ce que ces personnes-là sont, comme on le voit à Wuhan avec cet homme octogénaire, ça veut dire que ces personnes-là sont contagieuses après 21 jours de nouveau?
Alors ça, c'est possible, oui. Ça, il faut faire attention.
Ah oui.
C'est pour ça que c'est pour les gens qui ont des rechutes, il faut vraiment revenir, refaire un prélèvement. Ça vaut le coup de voir si on est toujours porteur de virus ou non. Et si on est toujours porteur, oui, je pense qu'on peut être encore contagieuse, tout à fait.
Donc docteur, c'est typiquement la mauvaise surprise là, et qui intervient alors que le déconfinement a démarré, et qui peut nous emmener vers une deuxième vague?
En fait, c'est des gens symptomatiques hein, quand même. Il faut voir que ce n'est pas des asymptomatiques. Donc ces personnes-là qui se retrouvent à nouveau avec une anosmie ou fièvre et tout, elles sont vigilantes aussi. Hein. La responsabilité personnelle, vous voyez, si moi je me remets à avoir de la fièvre et de la toux après un Covid, je me dis il y a quelque chose qui est
une responsabilité individuelle.
Je vais rester isolée, consulter.
D'accord. Donc c'est aussi une responsabilité individuelle, c'est ce que vous nous dites, mais en tout cas cette contagion n'est pas écartée très loin de là. Alors du coup, pour tester, tracer et isoler, le gouvernement mise sur le test virologique par PCR, polymérase chain reaction, hein, pour être exact, dont la montée en puissance est prévue d'ailleurs cette semaine. Cette stratégie des tests PCR, des seuls tests d'ailleurs PCR, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'elle est vraiment efficace, professeur?
Mais c'est la plus efficace de loin hein, par rapport aux autres stratégies. Donc, elle a été beaucoup élargie. Initialement, on ne dépistait que les gens très symptomatiques. Maintenant, c'est vraiment très large puisqu'on dépiste la personne et ses contacts. Hein. Si une personne est atteinte, tous les contacts de cette personne, que ce soit des contacts familiaux, professionnels, peuvent venir se faire dépister. Donc, c'est vraiment intéressant, si vous voulez. Si on arrive comme ça à tracer toutes les personnes symptomatiques et tous les contacts, ça diminue, et que ces contacts sont infectés et s'isolent, ça diminuera de façon nette la contamination. Pour l'instant, c'est ça.
Ouais. Hein. Oui. D'accord. Professeur, il y aura hein, dans les prochains jours 700 000 tests PCR. Il y a maintenant ces résurgences, ces rechutes dont on parle. Vous nous le dites vous-même, hein, alors que vous êtes vraiment au contact d'un certain nombre de vos confrères infectiologues pour essayer de comprendre vraiment ce que nous réserve encore ce virus. Est-ce qu'on a déconfiné trop tôt ici en France et trop massivement, principalement dans les départements rouges, quand on voit aujourd'hui qu'on a encore beaucoup d'inconnus dans l'équation?
Mais comme le disait Édouard Philippe, le Premier ministre, on est sur une ligne de crête. Hein. Si on ne déconfine pas, les gens vont vraiment perdre la raison, perdre confiance, l'économie va empirer. Donc il faut quand même à un moment... Et puis, on ne sait pas aussi ce que va réserver le déconfinement. Peut-être que finalement, tout le monde portant un masque, ça ne va pas repartir à la hausse, vous voyez. Donc si on reste toujours enfermé, on ne peut pas voir ce qui va se passer. Donc je ne pense pas qu'on ait déconfiné trop tôt. Hein. Si on a pris cette décision, c'est qu'il y avait plus d'arguments pour que contre. Maintenant, il faut être très vigilant. Et vous savez que les nombres de cas sont surveillés tous les jours. Hein.
Bien sûr.
Tous les jours, tous les laboratoires remontent leur nombre de cas. Donc là, on est aux alentours de 400-450 quand on a déconfiné. Oui. Si ça remonte dans les jours qui viennent, il faudra renforcer les mesures. Hein. C'est vrai, surtout dans les zones rouges.
Ouais, là, depuis 48 heures, on est à peu près stable, c'est ce que vous nous dites?
Ça fluctue un peu, hein, mais c'est ça, oui. C'est aux alentours de 450. Hein. Je n'ai pas les chiffres d'hier, mais les jours précédents, c'était ça. Mmh.
Merci beaucoup, professeur Dominique Salmon, en tout cas, d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1. Merci à vous.
Europe 1. À suivre dans un instant, Nathalie Lévy.
Le rappel des titres. Et puis les grandes voix, on est au rendez-vous, bien sûr, avec chacun d'entre eux, et notamment à Marseille également ce soir. À tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Les enfants de retour à l'école représentent, mais ce matin, en petit nombre, 1,5 million d'élèves de maternelle et de primaire vont progressivement retrouver le chemin des classes. À Paris, Anne Hidalgo bataille face au gouvernement. Elle demande l'autorisation de rouvrir parcs et jardins avec masque obligatoire. Refus du gouvernement après les images du canal Saint-Martin bondé hier soir. Les conseils municipaux élus au premier tour le 15 mars dernier vont pouvoir siéger d'ici au 28 mai. Le gouvernement donne son feu vert sous conditions sanitaires strictes. La compagnie Ryanair veut reprendre 40% de ses vols au mois de juillet avec prise de température des passagers et masque obligatoire sous réserve que les frontières puissent rouvrir. Les frontières, ce dossier est étudié par la Commission européenne. On y revient à 19h. Aux États-Unis, le conseiller de Donald Trump, l'épidémiologiste Anthony Fauci, met en garde contre une réouverture trop rapide de l'économie du pays. Il estime que le bilan de 80 000 morts est probablement sous-estimé. Et puis en France, le dernier grand festival de l'été est à son tour annulé. Rock en Seine, qui était programmé fin août à Saint-Cloud, près de Paris, et est repoussé à 2021.
Merci Sébastien Krebs. On va regarder du côté du ciel, Anissa.
Oui, avec beaucoup de pluie. Ouais, effectivement, Nathalie, demain, c'est une journée très pluvieuse. Alors, pour vous dessiner un petit peu hein, la carte de France que nous aurons demain, vous tirez un trait au niveau de la Seine. Toutes les régions en dessous de la Seine, au sud de la Seine, seront sous la pluie demain, sauf la Corse. Et alors, pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne, une partie des Ardennes et une partie de l'Alsace, et bien là, c'est un temps sec et ensoleillé avec quand même quelques passage nuageux. Demain, l'atmosphère est très fraîche avec des températures bien en dessous des normales de saison. Demain, nous aurons 14 degrés, 1 pour Charleville-Mézières, c'est pas chaud, 3 à Nancy, 7 à Paris et 14 à Nice. Dans l'après-midi, 11 à 25 degrés. Et puis, je vous rappelle que nous avons toujours le département des Landes placé en vigilance orange crue et inondation à cause de la propagation des crues de la Midouze et de l'Adour.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, jusqu'à 19h. Vous êtes entourée des grandes voix pour décortiquer l'actualité de ce mardi. Ils sont tous là. Ève Roger, du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie. Et tous les soirs, nous faisons le tour de France. Nous sommes à vos côtés en région. Et ce soir, direction Marseille, avec notre correspondante Nathalie Chevance.
Bonsoir les grandes voix, bienvenue. Bonsoir Nathalie Chevance à Marseille.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors, je suis toujours ravie de vous avoir. Avec Ève Roger, on va commencer ce soir sur ce bras de fer, hein, clairement, entre Olivier Véran et Anne Hidalgo. La maire de Paris veut rouvrir les parcs et jardins. C'est vrai qu'on avance dans la saison, que les jours rallongent, qu'on a bien envie de pouvoir voir trottiner les enfants ailleurs que sur des trottoirs. C'est non, a dit le ministre de la Santé, catégorique, en tout cas pour l'instant.
Alors on a entendu Jimmy Mohamed, notre médecin maison, tout à l'heure nous dire qu'il y a peut-être une raison sanitaire. Il y a peut-être une raison sanitaire parce qu'on ne sait pas encore très bien. On sait que le virus ne circule pas dans l'air, mais quand même on ne sait jamais. Et puis surtout, si les regroupements sont trop importants, s'il y a plus de 10 personnes qui se mettent dans le même endroit, ça ne va pas du tout. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Anne Hidalgo essaie de faire autre chose que ce que le gouvernement propose. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu aussi une politique de test des agents de la mairie de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là aussi, ça a été un énorme bras de fer. Puisque Olivier Véran, je crois même à l'Assemblée, avait dû dire que ce n'était pas utile, pas nécessaire de tester tous les agents. Et elle disait, mais oui, mais c'est important que les rippers, donc les éboueurs, puissent savoir quel est leur niveau de virologie. Et puis, elle a fait ça aussi avec les masques. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, enfin, c'est encore en cours.
Ils ne sont pas arrivés.
Voilà. Si, vous avez vu ce matin. Dans le Figaro, j'ai lu un papier. Ils sont arrivés, mais ils sont pas bien, pas du tout adaptés aux personnes âgées. Voilà, c'est ça. Donc les personnes âgées peuvent pas faire deux nœuds derrière leur tête comme ça, c'est pas possible. Donc d'une certaine façon, on a l'impression que Anne Hidalgo avance comme un bulldozer sur des mesures sanitaires, et c'est vrai que ça peut troubler l'opinion, parce qu'on se dit pourquoi la maire de Paris, elle dit qu'il faut faire des tests, il faut mettre des masques à tout le monde, il faut ouvrir les parcs, les jardins, et le ministre de la Santé, qui est censé être quand même avoir une autorité, en tout cas sur la santé, plus importante. Et moi, je trouve que c'est sans doute un bras de fer politique.
Ça apporte du coup de la confusion. Ben, on va y venir avec Mickaël Darmon, mais ça ajoute de la confusion à la confusion, et on n'avait certainement pas besoin de cela.
Et je me demandais si elle était encore en campagne électorale, peut-être.
Peut-être. Alors, Mickaël Darmon, vous savez, puisque on est là pile dans justement les conseils municipaux qui vont s'installer là à partir du 18. On va y revenir dans un instant. Mais oui, cette bataille là qui se joue, c'est une bataille purement politicienne.
Politique, et en fait, c'est vrai que Hidalgo, elle est plus qu'en campagne. Elle se considère comme déjà la nouvelle maire de Paris réélue. On le sent bien, on le voit évidemment à travers ce dossier qu'elle instrumentalise à dessein comme étant effectivement un affrontement avec le gouvernement, ça on vient de l'évoquer. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres négociations qui sont en train de se passer, notamment avec la région, où Anne Hidalgo, notamment sur la fameuse rénovation de la gare du Nord qui avait été suspendue sur pression des écologistes, les messages qui sont en train de passer, c'est « laissez-moi terminer l'élection et puis après on va trouver un protocole pour la redémarrer ». C'est ce qu'elle dit notamment à Valérie Pécresse, à la région Île-de-France. Donc, clairement, Anne Hidalgo est maire de Paris. Pour elle, au fond, ce qui va se passer dans la date d'un deuxième tour qu'on est encore en train de chercher, ou même peut-être s'il faut refaire les deux tours, au fond, on sent que pour elle, c'est une forme de formalité. Et qu'elle est déjà en gestion, et là, qu'elle scénographie à dessein l'affrontement avec le gouvernement, parce qu'elle prépare aussi bien évidemment l'après-crise sanitaire et son bilan politique.
Bon, après, Ève Roger, on va pas y revenir dans le détail, mais la question, elle se pose quand même sur les parcs et jardins. On pourrait poser la question à Jimmy Mohamed, mais de voir encore une fois les files d'attente devant les magasins qui empêchent donc les passants, ou en tout cas qui font comme ça une agglomération de passants, on se demande s'il vaudrait pas mieux être un peu espacé, mais dans les jardins, surtout pour les enfants. Bref.
Mais je comprends, mais en même temps, vous voyez le cas de Saint-Martin, c'est-à-dire que si les personnes se sont pas civiques et ne se disent, ils font pas ce qu'il faut, c'est compliqué de dire oui, on va ouvrir pour voir arriver des armadas de jeunes avec des bières à la main. Enfin, je peux pas.
Voilà. Bon, alors voilà, on posera la question.
Je fais la grande voix.
On va aller faire un tour à Marseille, vous rejoindre Nathalie Chevance, un peu de soleil, un peu de plage qui vont peut-être bientôt ouvrir. En tout cas, ça se discute. Bon, déjà l'école, c'est reparti, ça a recommencé. Et ça se passe, c'est plutôt bien géré.
Bah, en tout cas, sur le papier, sur les 443 écoles, il y a 443 écoles, pardon, qui ont ouvert sur les 470 que compte la ville. Alors c'est beaucoup, hein, mais c'est vrai que depuis le début, il y a une volonté municipale. Jean-Claude Gaudin, il faut le dire, hein, qui ne se représente pas à la mairie, a toujours dit qu'il était favorable à cette reprise de la classe. Alors il le dit, hein, c'est pour des raisons économiques. Et depuis des semaines, il martèle que tout est prêt. Hein. Il s'est même fait photographier masqué dans une salle de classe avec des enfants, dans une cour de récréation avec le personnel municipal. Alors des agents ici, vous l'avez évoqué pour Paris, qui ont aussi la possibilité de se faire tester gratuitement auprès de l'IHU du professeur Raoult, avec des horaires dédiés pour les 3000 personnels des écoles concernées. Ça a eu pas mal de succès d'ailleurs. Et puis nous avons aussi les marins-pompiers qui, eux, sont mobilisés pour procéder à des tests de Covid-19 sur les surfaces pour voir si la désinfection a été faite correctement dans les classes. On en a parlé sur Europe 1. Bref, il y a tout qui est là pour essayer de rassurer au maximum. La mairie dit que dans les écoles, bah, il y a tout. Il y a des masques, des gels hydroalcooliques. Bref, officiellement, tout va bien.
Officiellement, tout va bien. Voilà, jusqu'à quand et dans le détail, on verra ça un peu plus tard. Je reviens vous voir. Emmanuel Duteil, avec une question qui va peut-être en hérisser plus d'un quand même ce soir. C'est les 1% des Français les plus riches dont on va parler et où vous allez presque nous dire où est-ce qu'ils trouvent refuge, en quelque sorte.
Oh, je ne sais pas presque, je suis même capable de vous dire où est-ce qu'ils trouvent refuge. 43% des ménages à très haut revenu habitent en Île-de-France, dont 20% vivent dans Paris. Je peux même vous dire que 10% du coup dans les Hauts-de-Seine. Donc on a une cartographie assez claire qui a été faite par l'INSEE. C'est une étude donc qui est extrêmement sérieuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parle souvent de Paris et le désert français, en tout cas concernant les hauts revenus, ça semble assez clair. Alors, il faut quand même regarder du côté de certaines régions, du côté de la frontière suisse, comme par hasard, vous trouvez également quelques hauts revenus, du côté de la frontière belge, là aussi, tiens, vous avez quelques hauts revenus.
Donc, c'est la Côte d'Azur également.
La Côte d'Azur également, mais c'est beaucoup plus marqué là, dans les zones que j'ai pu vous citer. Par très hauts revenus, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais on entend les 1% de foyers les plus aisés, c'est-à-dire ceux dont le revenu annuel avant impôt et versement des prestations, je vous laisse aller tous regarder votre déclaration de revenus, il faut que ce soit supérieur à 108 670 euros pour, compter dans les 1% de Français. D'où viennent les revenus et pourquoi c'est en Île-de-France? Parce que bien évidemment, l'Île-de-France compte les cadres les mieux payés, compte certaines des grosses fortunes françaises. Donc c'est comme ça que ça s'explique, cette localisation des gens les plus fortunés en Île-de-France et très précisément à Paris et on le voit du coup dans la banlieue parisienne aisée.
Et je crois que du côté des femmes seules et très aisées, on est dans le rarissime dans cette étude.
Malheureusement, ça ne change pas. Il va bien falloir que ça change un jour. Mais là, pour le moment, j'ose dire qu'on est dans l'épaisseur du trait en la matière.
C'est ça. On va revenir quand même vous voir dans un instant, Emmanuel Duteil.
J'espère ne vous avoir pas déprimé à ce point-là.
Et vous tous, les grandes voix, on refait un point. On retourne à Wuhan ce soir parce qu'on a quand même de gros doutes. Et j'en parlais avec l'infectiologue qui était mon invité sur de nouveaux cas, des résurgences, des rechutes. On va expliquer ça avec Ève Roger, la politique aussi. À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h. Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, jusqu'à 19h.
Oui, et puis on va prendre la direction de Marseille avec vous, Nathalie Chevance, parce qu'on a envie un petit peu de s'aérer l'esprit quand même. Vous voyez vers quoi je vais directement, le déconfinement en mer, bien sûr. Tout le monde y pense, tout le monde a envie de le vivre. Chez vous, ça y est, je crois qu'on n'est pas loin des activités de plaisance validées.
Ah bah oui, parce que il faut le voir, beaucoup de plaisanciers ont profité aujourd'hui de la mer avec le retour du soleil. Il y avait pas mal de voiles, des petits bateaux cet après-midi entre le Vieux-Port et les îles du Frioul. Des particuliers qui se sont offerts une petite balade au large après deux mois. Il concerne ici 20 000 plaisanciers, 50 000 emplois sur la métropole d'Aix-Marseille. Alors vous comprenez l'enjeu économique. Et donc sur la façade méditerranéenne, la plaisance est donc de nouveau autorisée. Alors dans un rayon de 100 km à partir de votre point de départ. Et à la préfecture maritime, on vous explique que ce sont les mêmes consignes qu'à terre. Distanciation sociale, même port. Avec le port du masque, si l'embarcation est trop petite, pas plus de 10 personnes, même si le bateau le permet. Et une fois au large, eh bien, rien ne vous empêche de vous jeter à l'eau pour une petite baignade, de sortir votre kitesurf ou votre paddle.
Non mais attendez, on part tous à Marseille là.
Alors c'est sur toute la façade méditerranéenne et c'est justement parce que vous êtes déjà en mer et non plus sur le littoral. Alors c'est un petit peu subtil.
Ça c'est subtil. Ouais.
Mais c'est comme ça, ce qui veut dire que pour les clubs sportifs, dans leur grande majorité, ils doivent pour le moment patienter et pour se jeter.
Il y a quand même des interdictions.
Il y a quand même des restrictions.
Alors quelles sont-elles précisément? Parce que moi j'ai quand même vu la une de Var Matin le jour avec ces deux Hiérois qui sont allés se baigner déguisés en bouée de balisage hier.
Écoutez, alors ça c'est complètement interdit. c'est complètement interdit parce que ça dépend du maire de la commune qui va faire une demande auprès du préfet qui dira si oui ou non on est autorisé par exemple à aller se baigner en partant des plages du Prado ou aller faire du kitesurf du côté de, je ne sais pas, la Ciotat. Ce qui n'est pas autorisé non plus, ce sont les manifestations nautiques sportives comme les régates. Et puis autre chose... les balades en mer, comme les promenades dans les calanques, vous savez, qui sont organisées par des professionnels du tourisme. Eh bien, pour le moment, ça, c'est un petit peu flou. Ouais. On m'explique que c'est là du transport de passagers. Donc, ça relève du ministère des Transports. Un décret doit d'ailleurs être publié pour savoir exactement à quoi s'en tenir, comme dans un bus, finalement. Hein, et c'est ce qu'il faudra... est-ce qu'il faudra laisser un siège sur deux? On verra, en tout cas, c'est peut-être du bon sens. Bon, voilà.
Alors, j'ai juste un dernier mot parce que Nathalie Chevance.
Non, mais juste un dernier mot parce que la préfecture maritime m'a demandé de le dire. Elle lance un appel à la prudence parce qu'on n'annonce pas du très beau temps là pour les jours à venir et ils ont peur qu'avec l'envie de retourner en mer, eh bien, il y ait plein d'accidents. Voilà, tout simplement.
Bon, voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup, Nathalie Chevance, malgré tout. On va retourner avec vous, Ève Roger, sur très sérieusement, et d'ailleurs, tout est très sérieux dans les grandes voies, mais sur de nouveaux cas à Wuhan avec des rechutes. Et de fait, très vite, réaction, action, réaction, si j'ose dire, on a décidé, dans ce berceau de l'épidémie en Chine, de à la fois placer en quarantaine tout un quartier et de tester très vite, sur 10 jours, je crois, les habitants, 11 millions. Hein.
Oui, c'est ça ce qui est fou. J'ai fait un calcul, si on devait faire ça en Île-de-France, il nous faudrait 4 mois. Et pour l'ensemble de la France, il nous faudrait près de 2 ans pour faire ces tests avec la capacité de tests qu'on a. Ouais. Mais c'est vrai que ça paraît être... Il faut le faire très très vite parce que votre situation peut changer du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'en faisant comme ça, ce qu'a fait la Vénétie en Italie, par exemple, un petit village qui a montré à quel point c'était efficace, c'est que dès que vous avez une photographie de l'état de contamination d'une ville ou d'une population, tout de suite, vous réglez le problème. C'est-à-dire que vous isolez, enfin, vous connaissez maintenant l'histoire par cœur, vous isolez les cas avérés, vous isolez les cas contacts, et puis on n'en parle plus. Ouais. Et ça marche très, très bien. Et c'est vrai que la Chine, évidemment, a les moyens en test, a les moyens aussi en, j'allais dire, politique, hein, de le faire. Ouais. Et en même temps, on peut imaginez que la situation française est un peu en regard avec ça. La situation française, elle n'est pas si mal que ça dans cette politique de test. Je voulais juste vous signaler qu'aujourd'hui, le site santé.fr, vous pouvez aller regarder, il y a la cartographie de tous les centres de prélèvement qui existent aujourd'hui en France. Et donc, vous allez regarder en bas de chez vous quel est le centre de prélèvement le plus rapide. Et vous appelez, il ne faut surtout pas y aller. Ils vous disent, vous appelez, vous prenez rendez-vous, ils vous envoient, ils vous disent, vous allez à tel endroit, au Corona Drive, dans une... mairie, gymnase, et ça peut marcher très vite aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites, mais là par exemple en Île-de-France, il y a 500 centres de prélèvement qui sont maintenant opérationnels. Alors,
on va continuer avec Mickaël Darmon et avec Emmanuel Dutheil sur l'aspect plus économique des choses, hein, et Mickaël, le déconfinement qui devient clairement sur le plan économique une priorité absolue. Comment on aide ceux qui ont été au front les premiers, les plus exposés, la hausse des salaires, on impose qui, les hauts revenus en priorité, comment on va procéder? C'est aujourd'hui le sujet, hein, clairement, avec le MoDem très en pointe.
Oui, c'est le débat qui monte effectivement. Quelle politique économique, quel levier on met en avant pour établir un budget qui va être évidemment une équation impossible. Il y a des questions qui commencent à tourner, jetées ici ou là. On avait déjà vu sur le temps de travail. Maintenant, c'est des questions qui tournent maintenant autour de la politique fiscale et des salaires. Faut-il rétablir l'impôt sur la fortune? Non, Diversi pour l'instant, évidemment. Mais on voit bien que le débat est installé, notamment, comme vous l'avez dit, autour de ceux qu'on a applaudis pendant 2 mois et qu'on va continuer à applaudir, mais qu'il va falloir maintenant aussi rétribuer de manière différentes. Ce qui est intéressant, vous l'avez signalé, c'est que le MoDem prend position, tire la sonnette d'alarme sur l'urgence sociale, notamment à travers un article dans Le Monde aujourd'hui qui met beaucoup en avant le patron du groupe MoDem à l'Assemblée, Patrick Mignola. Et ça montre également la nouvelle place qui est en train de chercher à occuper donc le MoDem dans la majorité, parce que on voit bien que l'onde de choc de la fracture donc de la République en marche à l'Assemblée qui est en train de se mettre en place, puisque le nouveau groupe va se créer donc lundi ou mardi, eh bien commence vraiment à déplacer les plaques comme ça, les plaques tectoniques. On sait également que il y a donc une volonté de d'Emmanuel Macron de trouver un nouveau modèle d'économie politique, d'un projet pour la société. Et donc on sent bien là qu'avec le déconfinement, eh bien les, ouais, le jeu politique reprend, les plaques sont en train de bouger. Ouais. Parce que bien évidemment, la situation sera différente de ce qu'on a connu au début de l'année.
Bien sûr. Alors justement, on va continuer à parler d'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Et les loueurs de voitures, hein, qui du coup ont affiché, ont baissé leur grille ou quasiment pendant toute cette période, c'est vraiment l'asphyxie pour eux.
Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous le savez là, autour de la table virtuelle, puisqu'on est tous à nouveau un peu à distance. Je suis un peu tout seul, moi, dans ce grand studio d'Europe 1 ce soir. Mais par exemple, Europcar, qui est l'un des leaders en Europe de ce marché, c'est le plus gros acheteur de voitures entreprises de tous les constructeurs en Europe. Ils achètent 340 000 voitures par an. Vous imaginez ce que ça représente. Et donc là, effectivement, ils n'ont plus ou quasiment plus de clients parce que, bah bien évidemment, là, pendant les deux mois, les clients loisirs n'étaient pas là, les clients entreprises n'étaient quasiment pas là. Donc, ils vont baisser leurs achats de au moins 40%, c'est-à-dire 100 000 à 125 000 voitures en moins qui vont être achetées. Donc, quand on parle des difficultés du secteur automobile à venir, je trouve que c'est un exemple qui parle de lui-même, à quel point c'est impressionnant comme la crise que l'on vient de vivre va avoir des répercussions majeures dans les mois et dans les années à venir. Parce qu'en plus, les loueurs ont un système très particulier. Ils achètent les voitures, mais ils les revendent également directement, bien souvent, aux constructeurs qui sont obligés de les reprendre. C'est une sorte quasiment dépôt-vente, du coup, les loueurs. Donc, vous imaginez en ce moment, quand vous êtes un Renault, un Peugeot ou un Volvo, vous n'avez sûrement pas envie de récupérer des voitures en plus parce que vous ne savez déjà pas comment vous allez vendre celles que vous êtes en train de produire en ce moment. Donc, c'est juste pour donner, je trouve que ça parle à tout le monde. Tout le monde va mal dans ce secteur. Europcar, qui est donc l'un des leaders, fait partie des entreprises qui ont obtenu un prêt de la part de l'État. 220 millions d'euros pour passer la crise. Avis, qui est l'un des leaders, bien évidemment, dans le monde, l'américain, lui aussi, il dit qu'il est asphyxié par cette crise du coronavirus.
Et Hertz aussi, je crois qu'il menace de faillite.
Le troisième,
on aurait pu faire la liste, mais c'est parce que c'est vrai que ce sont des noms qui parlent vraiment à tout le monde, puisque je crois qu'on est tous passés par eux au moins une fois.
Oui, on les a tous détestés quand on a récupéré une voiture.
Merci Emmanuel Dutheil. Peut-être un chiffre rapidement, Emmanuel, si vous le voulez bien. Quand on est au chômage partiel, qu'est-ce que ça change concrètement à la fin du mois ?
Bien, à la faveur d'une lecture du Figaro sur le net aujourd'hui, je suis retombé sur une étude de l'OFCE. J'étais passé à côté, mais pendant le confinement, les salariés en chômage partiel auraient perdu en moyenne 400 euros. Donc vous vous rendez compte ?
Brut ou net ?
Alors, brut ou net ? Oh là, mais vous me posez une question, Nathalie. Non, c'est du net. Je pensais du net. C'est du net. 400 euros. Donc c'est quand même extrêmement symbolique sur l'impression de perte. Et là, c'est plus une impression, hein, sur la perte de pouvoir d'achat net. Et on le sait, hein, le nombre quand même de gens qui sont aujourd'hui au chômage partiel, on n'arrête pas de citer ce chiffre, 12 millions. Alors, faut toujours faire attention, puisque Olivier Samin du service économie d'Europe 1 m'a dit, attention, quand tu parles des 12 millions, tu exagères un peu. Parce qu'il y a eu 12 millions de demandes. Ça ne veut pas dire que toutes ces demandes vont être validées parce que les entreprises font leur demande au début du mois et parfois elles se rendent compte qu'elles ont un peu plus besoin de monde que ce qui avait été prévu. Mais bon, il n'en reste pas moins qu'on vit une situation historique et je me tèche par un Marseille, je prends mon maillot de bain.
Alors attendez, ça tombe bien parce que Nathalie Chevant, je reviens vous voir. Je voulais conclure avec Eve Roger, avec Nathalie Chevant, par les écoles. Parce qu'évidemment, les enfants y sont retournés aujourd'hui. Nathalie, vous nous avez fait dans la première partie les bons points. Il y a aussi des points plus critiques, hein. En quelques mots.
Parce que vous savez bien, les écoles à Marseille, c'est quand même un sujet brûlant, hein, c'est un sujet politique aussi. Que l'opposition municipale prend et relayé par des témoignages de plusieurs enseignants, hein, d'abord sur l'état dégradé de certaines écoles, notamment des sanitaires avec du matériel parfois défectueux, des masques à disposition, dont l'emballage a été parfois ouvert prématurément, des bonbonnes de gel hydro, mais sans aucun dispositif pour le distribuer, des personnels municipaux qui manquent à l'appel, Force ouvrière, qui est le syndicat majoritaire, estime que la moitié des effectifs territoriaux ne sont pas là en raison de maladies, de garde d'enfants. Et puis plus inquiétant, il y a une vingtaine d'écoles des quartiers nord qui sont restées fermées sur recommandation de l'ARS. C'est une sorte de... Les enseignants... Oui, je disais que la rentrée a été reportée dans une vingtaine d'écoles des quartiers nord, vous m'entendez bien ? Parce que il y a des suspicions de foyers épidémiques. Et puis les enfants, 10 000 attendus cette semaine, 20 000, un quart de l'effectif global. Ils ne sont donc pas si nombreux. Et certaines écoles, et notamment toujours dans les quartiers prioritaires, n'ont d'ailleurs pas rouvert parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs, pas assez d'enfants.
Ben oui.
Ben les familles, non, et puis les familles des quartiers défavorisés ont beaucoup de craintes de les renvoyer en classe. Vous voyez, il y a donc une réalité de terrain qui contraste quand même avec les discours officiels.
Bah, bien sûr. Alors Eve Roger, c'est par vous qu'on conclut parce que cette première journée, un peu partout en France, là on zoomait sur Marseille. Quels sont vos retours à vous ?
On a entendu Bordeaux, on entend l'ouverture des classes à Bordeaux. Moi, ce que j'ai pas mal entendu malgré tout, c'est la joie des enfants. Il y a quelque chose d'assez agréable à entendre. Mais bien sûr, il y a les mesures barrières, bien sûr, il y a toutes les contraintes dont a parlé Nathalie, mais c'est la joie des enfants. Et moi, je pense aujourd'hui aux écoles qui n'ouvrent pas du tout cette semaine. Et encore pas. J'ai fait un petit calcul. Selon le SNUIPP, il pourrait y avoir 6000 écoles qui n'ouvriront pas avant peut-être septembre. Et c'est vrai que moi, je pense à ces enfants-là. Et on sent la tristesse des enfants quand ils savent qu'ils ne retourneront pas à l'école.
Ouais, et je crois qu'à Paris, c'est encore plus prégnant. En tout cas, c'est le cas là, dans le 15e arrondissement, tout près d'ici. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci, Nathalie Chevance, depuis Marseille.
Merci.
Qui nous a un peu vendu du rêve, quand même, ce soir, hein, avec ses promenades en mer. Allez,
mais il va pleloir.
Oui, voilà.
Je veux bien y aller sous la pluie quand même. Hein.
Merci à vous, les grandes voix. Demain, avec plaisir.
Europe 1. À suivre dans un instant sur Europe 1, Nathalie Lévy.
L'info, Sébastien Krebs, l'Europe puis la France au chevet du tourisme. Et on déroule le programme d'ores et déjà. Après 19h, l'actualité de demain, y compris avec Sébastien Krebs. Et puis, je recevrai le maire de Cannes, David Lisnard, parce que ça devrait être là, la montée des marches. Eh oui, le festival de Cannes devrait s'élancer, comme chaque année. Mais rien cette année. On va changer, on va travailler à une autre version. Et puis à 19h30, comment allons-nous travailler demain ? Le télétravail est-il l'avenir ? 3921, hashtag Radio Ouverte. Qu'en pensez-vous ? Vous ? Ensemble, on se tourne donc vers demain et on écoute le monde changer. Ça se passe sur Europe 1, jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours, avec Nathalie Lévy.